LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
J'ai envie de dessiner.
C'est quoi?
Tu dois dire c'est quoi un enfant?
Pour un enfant, c'est d'être bien sage et d'écouter les professeurs et d'écouter les adultes et les parents.
Les enfants, c'est comme ils vont au parc, ils sortent avec leurs parents.
Les enfants peuvent-ils parler?
Les enfants peuvent-ils parler?
Ça se fait des amis.
Une série documentaire de Clément Salzar et Anne
ils
Fleury.
Ils vont à l'école, ils apprennent.
Premier épisode.
Infant, celui qui n'a pas de voix.
Ils font des travaux d'équipe.
Ils font des puzzles.
Salut Mia. Ça va?
Oui.
T'as passé une bonne journée?
Oui. Le vendredi, c'est trop bien.
Pourquoi c'est trop bien le vendredi?
Parce que l'après-midi, tu travailles pas du tout, parce que t'as silence en lit, conseil d'élèves. C'est pendant la semaine, il y a des...
Mia est la fille d'une amie, enseignante en BTS. À ce moment-là, nous sommes en septembre 2023. Elle a 9 ans et demi, le demi-compte. Et pendant quelques mois, nous nous sommes régulièrement donné rendez-vous pour discuter et réfléchir ensemble à la place des enfants dans la société, avec Mia et avec ses amis. Parmi elles, Naya, sa voisine et grande copine, qui, elle, vient de rentrer au collège. Elles vivent à un étage l'une de l'autre, dans le même immeuble, porte de Bagnolet, dans le 20e arrondissement de Paris. C'est un rituel bien institué entre elles. Les semaines où Mia est chez maman Eva, Naya dévale les escaliers pour la retrouver.
Je peux poser une question à vous deux?
Oui.
Vous diriez que c'est quoi pour vous être enfant?
Avoir des beaux souvenirs, jouer, voilà.
Pour être enfant, c'est être dépendant de quelqu'un jusqu'à ce que tu puisses faire ce que tu veux et tout ça.
Ça veut dire quoi être dépendant de quelqu'un?
Par exemple, tu dois faire quelque chose, par exemple quelque chose un peu grand, un peu exagéré. Tu dois demander la permission, tu pourrais pas faire ça sans juste parce que t'as envie de le faire comme ça.
Okay. T'es d'accord avec cette définition, Naya?
Oui, surtout être enfant, je trouve qu'on est plus épanoui. On aime voir beaucoup de choses, on est super curieux, voilà.
Moi, je trouve aussi quand on est enfant, on est plus excité, on est plus dynamique, on est plus comme ça. Oui, c'est ça, et on imagine plus de choses, on a plus de créativité que quand on est adulte.
Et pourquoi?
Parce que quand on est adulte, on a moins le temps d'être créatif, de faire des dessins ou de jouer. Mais si les adultes, ils n'auraient pas des métiers, si ça n'existait pas, bah, je pense que leur amusement préféré, ce serait les jeux aussi.
C'est quoi un enfant? Est-ce que enfant, c'est quelque chose qui va de soi? Dans son livre Les enfants d'abord, texte compagnon, l'écrivaine Christiane Rochefort dit la chose suivante. On ne connaît que des enfants des adultes. Ce sont les adultes seuls qui établissent la science des enfants et donnent de ceux-ci, dans des ouvrages nombreux, les définitions accréditées auxquelles les enfants eux-mêmes ont à se conformer. Seuls les adultes savent ce que sont les enfants et ce qui est bon pour eux. Avec Christiane Rochefort, je comprends que les enfants sont parlés. C'est peut-être une facilité de penser, mais je demeure troublée par l'étymologie du mot « enfant ». En latin, « infans », cela signifie « celui qui ne parle pas ». Il m'a semblé utile de m'arrimer à ce trouble pour peut-être conjurer ce mauvais sort de la langue.
On va dire que l'enfance, pour moi, elle est... Je sais pas si c'est une définition, mais c'est plutôt un angle problématique qui me paraît intéressant.
Guilain Leroy est sociologue. Il a mené une longue enquête fruit de son travail de thèse sur l'école maternelle française et les représentations de l'enfance qui s'y déploient.
Sur l'enfance pèse forcément, on va dire, beaucoup d'attentes sociales, éducatives, etc. C'est une période dans laquelle, comme la socialisation n'est pas encore complètement aboutie, il peut y avoir aussi des jeux, on va dire, des écarts, des hiatus, etc., entre ce que sont les enfants et ce qu'on attend d'eux. Mais en tout cas, c'est un bon observatoire de ce que la société cherche à faire aussi des individus, en fait.
En histoire de la jeunesse et de la jeunesse déviante et délinquante, il y a plusieurs termes qui peuvent désigner le même objet, le même individu d'un certain âge.
Véronique Blanchard, historienne.
Et on a beaucoup utilisé le terme de mineur pour désigner les enfants en justice ou les enfants sous protection de l'enfance, parce que ça permet de définir un seuil d'âge, même si ce seuil d'âge est mouvant à travers la législation, que ce soit la législation pénale ou la législation civile. Pour moi, le terme d'enfant, il a une vraie valeur pour essayer de dire qu'on est vraiment dans une catégorie d'âge différent de celui de l'adulte, tel que ça commence à être pensé au cœur du 19e siècle. Aujourd'hui, on a une perception finalement assez large de l'enfance et de la jeunesse. C'est non seulement ceux et celles qui vivent encore avec leurs parents, qui ne sont pas autonomes, qui sont dans le cadre de l'éducation nationale. C'est aussi des perceptions sociales. C'est-à-dire qu'on a parfois, dans certaines catégories sociales, des définitions de l'âge et de l'enfance différentes. Quand vous pouvez travailler à partir de l'âge de 14 et 15 ans, que vous pouvez vivre de manière autonome financièrement à 16 ou 17, vous n'êtes plus réellement considéré comme un enfant. Pour l'historienne que je suis, tout mineur ayant encore une nécessité d'éducation et étant un être en devenir est pour moi un enfant.
Danielle Delanoë, vous êtes psychiatre et anthropologue. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage donc, sur les châtiments corporels de l'enfant. Pour commencer, est-ce qu'il y a une définition de l'enfant qui vous satisfait ou est-ce que vous en avez une à nous proposer ?
Alors je crois qu'il y a plusieurs définitions de l'enfant. Il y a une définition juridique, 0-18 ans, qui correspond au statut de mineur, qui est là complètement socialement construite et arbitraire, puisqu'elle elle varie dans le temps, dans l'histoire, c'était 21 ans, c'est 18 ans. Dans d'autres pays, sur certaines questions, c'est moins. Et même en France, c'est hétérogène, selon la majorité sexuelle, pénale, civile. On voit que c'est une construction qui relève de différents critères, plus ou moins justifiés ou arbitraires, mais qui ne se base pas sur, finalement, une appréciation des compétences de l'enfant, puisque le statut de mineur concerne aussi bien le nouveau-né, le nourrisson, que l'enfant d'âge scolaire, que l'adolescent. Donc c'est une catégorie juridique qui définit un statut social. Donc là, c'est une donnée relativement objectivée. Après, il y a toutes les étapes du développement de l'enfant, sa physiologie. On pourrait multiplier les étapes. Philippe Ariès, dans son travail de référence, a montré qu'il y avait une création de l'enfance.
Sous l'Ancien Régime.
Sous l'Ancien Régime. Là aussi, ce serait socialement construit. Et puis, dans les sociétés, il y a des enfants à qui on demande des tâches de responsabilité, de s'occuper des petits frères, de travailler. Il y a des mariages aussi. Oui, socialement, on pourrait trouver une foule de critères pour d'âges différents de la vie où on passe d'un état de mineur à un état avec plus de droits. Hein. Voilà, je ne m'aventurerai pas à donner d'autres définitions de l'enfance que de prendre acte des définitions socialement construites pour l'instant.
Quelles traces laissent les enfants et quels enfants laissent des traces ? Peut-on écrire une histoire de l'enfance ? C'est la question que posent les deux conséquents volumes d'un livre intitulé « Histoire de l'enfance en Occident, de l'Antiquité à nos jours », rédigé sous la direction d'Aigle Becky et Dominique Julia, paru en 1998. Soit 30 ans après l'ouvrage pionnier de Philippe Ariès, « L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime ». Pionnier, car Ariès est le premier à faire de l'enfance un objet historiographique à part entière, même s'il est aujourd'hui vivement critiqué pour ses approximations sur la société médiévale. En préambule de leur histoire de l'enfance en Occident, de l'Antiquité à nos jours, le duo d'historiens s'interroge. Histoire de l'enfance, histoire sans parole. Ils écrivent. Nous savons pertinemment au départ combien l'ambition affirmée est tout à fait démesurée par rapport aux traces dont nous pouvons disposer. Nous ne saisissons dans l'histoire que des bribes, et il est tout à fait exceptionnel que nous puissions saisir l'enfant comme sujet. En fait, nous ne saisissons l'enfance qu'à travers le prisme que nous en ont laissé à chaque période de l'histoire les adultes, législateurs, pédagogues, écrivains, peintres, parents, autobiographes se remémorant leur propre passé, etc. Et c'est bien à travers ces traces indirectes que nous devons tenter de reconstruire ce qu'ont pu être les enfances des époques révolues.
Je pense qu'il est assez clair que la Troisième République a une véritable réflexion autour de l'enfance et autour de l'idée que ce sont les enfants, les jeunes qui vont faire la nation de demain. C'est aussi le traumatisme, bien sûr, de la guerre de 1870 et l'impression que la France n'est peut-être pas assez riche d'enfants, même si c'est un anachronisme, puisque c'est vraiment un terme qu'on utilisera après 1945. Mais je pense que ce sentiment-là est en 1880. Et puis, c'est cette idée de la République, de faire nation, d'éviter les prochaines révolutions. On est dans des tourmentes hein, depuis le début du 19e siècle. Et donc, l'instruction générale pour tous, avec les mêmes programmes, avec des instituteurs qui vont développer la pensée républicaine, la force de l'État, c'est une manière de discipliner, de réguler l'enfance, la jeunesse et la génération d'adultes à venir. Et puis après, il y a l'idée de résorber la pauvreté et la misère, qui est quand même extrêmement réel hein, dans la France du 19e siècle, essayer de lutter aussi contre l'urbanisation, les méfaits de l'industrialisation. Tout ça fait que les soins, la médecine progressent et que la question de l'enfance hein, en tant que corps différent de celui de l'adulte qui mérite une alimentation différente, des soins différents, une hygiène différente, va aussi créer des corps médicaux comme les pédiatres hein, qui vont engendrer une évolution du regard porté sur l'enfant en termes d'éducation, en termes de médication, en termes de scolarisation et en termes de justice du coup aussi.
Et avec une séparation adulte-enfant qui s'intensifie de plus en plus.
On crée une catégorie quasiment. On crée une catégorie, d'abord la catégorie des enfants, puis ensuite on va affiner et on va créer la catégorie des adolescents. Après 13 ans, avant 18 ans, se crée au fur et à mesure du temps de ce 19e siècle cette perception que là, on n'est plus dans l'enfance et on n'est pas encore dans le monde adulte. Il y a aussi, bien sûr, cette question de la puberté qui est en train d'être étudiée par les médecins et qui permet là encore d'affiner cette catégorie d'âge entre l'enfance et le monde adulte.
Dans son ouvrage de référence, L'invention de l'adolescence, l'historienne Agnès Tiercé fait apparaître cette notion au 19e siècle, alors que naissent les lycées, et avec eux les premières grandes révoltes lycéennes contre l'autorité scolaire. Jusqu'aux grandes lois sur l'école de la Troisième République, c'est-à-dire la loi sur l'enseignement secondaire des jeunes filles en 1880 et celle sur l'obligation scolaire de 1882, l'adolescence est réservée aux fils de la bourgeoisie, puisque les filles et les enfants des classes populaires ne sont pas encore isolés dans des espaces propres à leur âge, comme le lycée. C'est donc fin 19e que l'adolescence désignera toute une classe d'âge entre l'enfance et l'âge adulte. De manière concomitante, émerge une discipline qui ne cessera d'étendre son influence sur nos conceptions des jeunes personnes, la psychologie de l'enfant. Stanley Hall, par exemple, à qui on attribue des avancées majeures en matière de connaissance des enfants, associera l'adolescence à une phase de sauvagerie. Ainsi, dès 1850, écrit Agnès Tiercé, s'affirme l'équation suivante. L'adolescence renvoie à la puberté, désir, violence, dispose d'un encadrement propre, le lycée, et est une période de crise, le fameux âge ingrat.
Pour moi, un enfant, c'est un être vivant, c'est quelqu'un de qui vient juste de rentrer dans un monde, qui va vivre sa vie.
Leïna.
Pour moi, un enfant, c'est un être qui est curieux, qui découvre plein de choses. Quelqu'un qui va devenir de grand, forcément. Quoi qu'il arrive, il a toujours des idées. Pour moi, un enfant, c'est juste quelqu'un qui accomplit des choses, qui peut. Faut juste. On a tous la capacité, mais il faut aussi des personnes avec qui communiquer. Pour moi, un enfant, c'est ça.
Alors, un enfant, c'est déjà une personne en droit, et on va la concevoir
Laurence Francos Terminal,
sous deux dimensions.
Juriste.
C'est-à-dire que l'enfant, c'est un sujet de droit qu'on va examiner d'un point de vue juridique dans son autonomie, dans ses actions, mais l'enfant, il est aussi défini comme étant le fils ou la fille de quelqu'un. Et c'est là où on va aborder des problématiques du lien aux parents et des questions qui relèvent de la filiation et de l'autorité parentale. Donc c'est vraiment dans ces deux dimensions-là que le droit aborde la notion d'enfant.
Est-ce que enfant, c'est forcément synonyme de mineur ?
Enfant, c'est forcément synonyme de mineur pour le premier volet. L'enfant est la personne de moins de 18 ans, mais dans la relation parent-enfant, on est à vie le fils ou la fille de quelqu'un. Néanmoins, d'un point de vue juridique, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant vise les personnes de moins de 18 ans, donc les mineurs dans notre droit. Ce qu'il faut ne jamais oublier, c'est que l'enfant, en tant qu'être humain, en tant que personne juridique, a exactement les mêmes droits et libertés fondamentaux que les adultes, si ce n'est qu'il ne peut pas les exercer.
Ça peut être étonnant, parce que ça semble abstrait. Donc c'est des droits, et en même temps, très concrètement, ils ne peuvent pas les exercer.
Ils ne peuvent pas en avoir l'initiative. C'est la distinction que l'on va faire entre la capacité de jouissance, qui est le fait d'être sujet de droit, et ce qu'on appelle la capacité d'exercer ses droits. La capacité d'exercice, elle va être donnée à la personne par l'effet d'un seuil d'âge. Coup de baguette magique à 18 ans, ça nous tombe dessus, on est prêt ou on n'est pas prêt, mais on devient capable juridiquement. Mais si l'on étudie la minorité, cette période de temps entre 0 et 18 ans, ben on s'aperçoit qu'il y a des outils émancipateurs, des outils qui permettent à l'enfant d'avoir des capacités ponctuelles ou d'intervenir dans le processus décisionnel, mais d'avoir un pouvoir qui peut être un pouvoir de contrôle ou alors un pouvoir d'action sous contrôle. C'est-à-dire qu'on a par principe un mécanisme de représentation légale qui se met en place, c'est-à-dire que les parents ont le pouvoir d'agir au nom de l'enfant et pour le compte de l'enfant, mais on a différentes...
Si je comprends bien ce qu'explique Laurence Francos Terminal, notre système juridique, héritier du droit romain, est un régime de représentation légale, c'est-à-dire un système dans lequel le pouvoir d'action, d'exercer les droits des enfants, est délégué aux parents. Derrière ce régime juridique de représentation, dans lequel donc les enfants sont incapables juridiquement, il y a de nos jours l'idée de protection. De nos jours, car dans la Rome antique, le représentant légal, c'est le pater familias, qui règne en maître omnipotent sur son foyer. Il a alors droit de vendre, abandonner ou encore tuer légitimement ses enfants. Les choses évoluent sensiblement à la faveur de la Révolution française, qui, selon la féministe de la fin du XIXe, Maria de Resme, a substitué à la puissance paternelle les termes de surveillance et de protection. La mission des parents consiste alors davantage en une tutelle plutôt qu'en un pouvoir discrétionnaire, écrit-elle. En 1804, le Code civil de Napoléon abroge ses avancées et institue, lui, que les personnes privées de droit sont les mineurs, les femmes mariées, les criminels et les débiles mentaux. C'est le retour de la puissance paternelle face au chaos que représenterait l'absence d'autorité. Revenons à la période contemporaine. Les outils émancipateurs évoqués par Laurence Francos Terminal, ce sont les deux sphères d'exception à ce régime de représentation, l'autorisation et l'autonomie. Ainsi, toute modification corporelle, un tatouage ou une mammectomie pour les mineurs trans par exemple, requiert l'autorisation de son représentant légal. Pour l'autonomie, cela concerne des petits actes quotidiens, comme aller faire des courses, ou bien la sexualité. Un enfant a le droit, en théorie, d'accéder à des méthodes contraceptives sans en aviser ses parents.
La jeune femme pourra avoir accès à l'interruption volontaire de grossesse. Et puis, si l'enfant devient parent, eh bien là, on va lui donner une autonomie totale dans l'exercice de l'autorité parentale sur la personne de son propre enfant. C'est-à-dire que, de manière un peu paradoxale, l'enfant parent, qui est lui-même parent, a juridiquement plus de pouvoir pour la prise de décision sur son enfant, sur son bébé, que pour lui-même.
Est-ce qu'il y a des spécificités biologiques, cognitives de l'enfant par rapport aux adultes?
Bien sûr, si on prend le nouveau-né, le nourrisson, première, deuxième enfance, le corps, l'indépendance physique, toute la structuration du psychisme, et sur le plan cognitif, bien sûr, il y a des notions qui sont envisageables à partir d'un certain âge, par exemple la conscience de la mort, il semble-t-il que ce soit à partir de 6-7 ans que l'enfant puisse en prendre conscience. Alors Piaget a développé les stades, la pensée concrète, abstraite, etc. Donc il y a un développement continu et qui se poursuit jusqu'à 25 ans, la croissance physique, intellectuelle, et puis après elle s'arrête.
Et ces différences ou ces données biologiques et cognitives, c'est souvent celles qui vont être mobilisées pour justifier aussi un statut à part.
Oui, tout à fait. Christine Delphi, qui est une des rares sociologues et féministes à avoir travaillé sur la question de l'enfance, hein, dans son article vraiment sur la minorité comme construction sociale, montre bien au contraire que ces critères sont sollicités, mais sans une prise en considération sérieuse. C'est-à-dire que on va dire que l'enfant peut voter à partir de 18 ans, avant c'était 21 ans, dans certains pays c'est 16 ans. Il n'y a pas de mesures précises à partir desquelles un certain niveau de développement permettrait d'avoir une autonomie dans tel ou tel domaine. Les éléments du statut de mineur s'appliquent indifféremment, si vous voulez, de 0 à 18 ans, alors que à 12 ans, il y a des choses que l'enfant pourrait faire et qu'il n'a pas le droit de faire parce qu'il est mineur, et qu'il ne pourrait pas faire à 6 ans ou 4 ans. Mais il a grandi, il pourrait faire beaucoup de choses, et dans des sociétés, on lui demande beaucoup de choses, d'ailleurs, à ce moment-là. Donc ce sont des éléments de développement qui sont invoqués, mais qui ne correspondent pas à une réflexion sur les compétences réelles de l'enfant à tel ou tel âge.
Mais est-ce qu'il te semble, toi, déjà, dans ta vie, à 12 ans, que tu as vécu des discriminations?
Oui, j'en ai vécu. Il y a des garçons qui, tout simplement, se moquaient de ma couleur de peau, d'autres qui se moquaient de mes cheveux, d'autres qui m'insultaient, disaient que je faisais n'importe quoi. Mais il y en a aussi qui disaient que j'ai trop la bouche parce que je suis une fille, plein de choses comme ça.
Parce que quand on est une fille, faut pas trop parler.
Oui, faut se taire parce qu'on est comme des poupées avec qui il faut jouer, voilà. Il y a eu des professeurs, par exemple un prof de sport qui a eu des comportements pas dignes d'un prof normalement, pas dignes de personne. Enfin, en fait, on était au basket. Et on devait sauter pour marquer un panier. Et j'ai encouragé avec des copines une fille pour qu'elle saute haut. Et le prof, il a dit qu'elle va pas sauter bien loin parce qu'elle était grosse. Et aussi, il y avait des garçons qui se battaient. Et il est venu, il les a attrapés, il les a cognés entre eux, il les a bousculés. Et en fait, les garçons pleuraient. Il disait comme quoi c'était des garçons, il faut pas pleurer pour ça. Du coup, après, on est venu. Il y a une fille qui a proposé qu'il pouvait porter plainte. Moi, j'ai dit qu'il pouvait tout simplement aller voir la CPE, en parler au lieu de rester de rester à rien dire. Et sauf qu'il était derrière nous, il a tout entendu. Parce que moi, bon, ça me fait rien, parce qu'il devait entendre un jour ou l'autre. Et du coup, il est venu. Il est venu, il a dit qu'on avait trop la bouche, que pour des filles on devrait se taire, on ne savait pas de quoi on parlait. Et du coup, moi j'étais pas d'accord et forcément j'ai répondu en disant que si on sait de quoi on parle et que c'était pas quelque chose à faire à des personnes, tout ça. Et il a dit qu'il allait me mettre un rapport, tout ça, mais il n'a rien fait. Parce que je pense qu'il savait qu'on avait raison.
Qu'est-ce que tu en penses de ça, de comment les adultes considèrent les enfants?
Le fait de dire que vu qu'on est des enfants, qu'on est plus petits, qu'on est soi-disant inférieurs, du coup, ils nous effacent comme si on servait à rien. Enfin, c'est juste qu'on sera grand. Et en faisant ça, certains enfants comprennent qu'ils sont rien et du coup, bah, ils s'étalent.
Et est-ce qu'il y a des sphères qui lui sont tout de même complètement interdites ?
Jusqu'en 2010, par exemple, les actes de commerce et le fait d'être commerçant étaient interdits même aux mineurs émancipés. Donc je dirais que traditionnellement, c'est le milieu des affaires était quand même considéré comme ce qu'il y avait de plus risqué. Après, on voit quand même qu'il y a une évolution. Mais si le mineur n'est pas émancipé, le mineur est un petit consommateur, il achète des choses, mais on ne va pas lui permettre de faire régulièrement des actes de commerce, c'est-à-dire d'acheter pour revendre. Ensuite, je cherche des champs d'action du mineur.
Le droit de vote.
Ah, alors oui, en effet, en matière politique, clairement, oui, celui-là, c'est bizarre même qu'il ne soit pas venu à l'esprit tout de suite parce que c'est le plus évident finalement, mais bien sûr, oui, bien sûr, en matière politique, en matière d'exercice de ses droits citoyens, c'est la majorité qui détermine tout. Et l'enfant, c'est une cible économique, mais pas une entité politique qui pourrait faire poids dans les décisions, même si on a mis en place le Parlement des enfants ou les conseils municipaux d'enfants. Alors certes, c'est un but pédagogique au départ, hein. Mais ça reste vraiment trop marginal, c'est sûr.
Qu'est-ce qu'il faudrait, tu penses, pour que la parole des enfants, elle soit plus écoutée ?
Bah moi, je pense que il faut en parler aux enfants, comme quoi ils sont plus que ça, plus qu'une toute petite chose qui sert à rien. Je pense qu'il faut en parler, faut faire plein de choses, comme des manifestations, des livres, des films encore.
C'est par l'entremise d'une de ses anciennes profs d'école, Huyem, que je donne rendez-vous à Leïna en octobre 2023, dans un parc de Saint-Denis, dans le 93. Mais ce n'est pas tout à fait ma première rencontre avec elle. Un an plus tôt, le 15 octobre 2022, elle prononce un discours lors d'une marche féministe et antiraciste, toujours à Saint-Denis. Ça commençait comme ça. « Bonjour, je m'appelle Leïna, et j'ai 11 ans. Oui, j'ai que 11 ans, mais je sais ce que c'est le racisme. J'ai 11 ans et j'ai subi du racisme et j'en ai vu. Vous vous demandez peut-être pourquoi une jeune fille de 6e s'exprime devant vous aujourd'hui ? Eh bien parce que j'y ai ma place. On y a toute notre place.
Quand j'ai fait ça, c'est pour montrer que même un enfant peut être capable de parler devant des centaines d'adultes, des centaines de personnes.
T'as eu peur ?
Oui, je stressais beaucoup. Quand je stressais et je pensais aux enfants qui avaient certainement besoin d'entendre ça, je l'ai fait.
Est-ce que toi, t'aimerais voter ?
Oui, parce que il y en a, ils disent non, mais c'est les enfants, ils savent pas ce qu'ils font. Si, par exemple, on avait interdit les femmes de voter, aujourd'hui elles votent parce qu'elles se sont battues. Enfin, là où j'ai envie de venir, c'est que tout le monde a le droit de voter, qu'on soit petit, grand, noir, blanc, métis.
Tu voudrais voter à partir de quel âge ?
Moi je dirais à partir de 10 ans, parce que quand on est petit, je dis pas qu'on peut pas comprendre des choses. On est conscient, mais il faut qu'on réfléchisse encore. Enfin, en fait, moi je dirais qu'on peut voter dès le plus jeune âge, mais si on a des adultes qui viennent nous parler, nous comprendre, discuter, je pense que là, dès le plus jeune âge, on peut comprendre et on peut voter, on peut donner des décisions, des plein de choses comme ça.
La raison pour laquelle je parle du droit de vote dès la naissance, ou en tout cas à un âge beaucoup plus jeune que 18 ans, hein, ça ce serait un débat à avoir en tant que société, à quel âge on peut voter, c'est effectivement plutôt pour donner une voix à ces enfants, puisqu'il s'agit en général de décider de leur avenir, en tout cas sur beaucoup de décisions politiques, ils s'y intéressent plutôt qu'on ne le pense.
Lélia Benoît enseigne à Yale, aux États-Unis. Nous communiquons par écran interposé. Dans Infantisme, son court essai paru en septembre 2023, la pédopsychiatre et sociologue convoque un souvenir d'enfance. Elle a 7 ans, en 1995, et regarde le débat télévisé opposant Lionel Jospin à Jacques Chirac, tous deux en lice pour la présidence de la République. Elle se souvient de la grande déception ressentie à la découverte de leur silence commun sur les enfants. 30 ans et quelques plus tard, la chercheuse pose la question : quel levier actionner pour que les enfants pèsent politiquement.
certains auteurs et puis certains essais ont été faits en proposant le droit de vote dès la naissance, en se disant bah puisqu'on n'a pas d'âge seuil, tant qu'à faire, autant autoriser les personnes à voter jusqu'à la naissance, puisque de l'autre côté de la vie, on autorise les gens à voter jusqu'à la mort et on dit jamais à un moment donné votre avis est périmé, vous ne pouvez plus voter. Ce qui a été proposé du coup comme idée si on vote dès la naissance, c'est de se dire au début, c'est les parents qui exercent le droit de vote. Sur les premières années, on n'est absolument pas dans l'illusion qu'un bébé de 3 ans va choisir et glisser lui-même son bulletin dans l'urne. Donc c'est les parents qui exercent le droit de vote. Mais petit à petit, progressivement, il s'agirait pour l'enfant de commencer à s'intéresser aux différentes options de candidats, de propositions de vote. Et puis petit à petit, apprendre lui-même ou elle-même à glisser le bulletin dans l'urne, ensuite à choisir, etc., avec un continuum qui ferait qu'à 18 ans, les parents n'ont plus du tout le droit d'avoir aucun rôle dans le processus de vote, mais progressivement, vers l'adolescence, l'enfant gagnerait en autonomie.
La principale critique adressée à cette proposition est que les enfants, particulièrement malléables, seraient influencés et voteraient comme leurs parents. Toutefois, tel que l'indiquent les études en sociologie électorale, notamment les travaux d'Anne Muxel, grande experte du vote des jeunes, les enfants héritent largement de leur famille en matière de préférences idéologiques. Globalement, à 18 comme à 50 ans, on est de gauche, du centre ou de droite, comme ses parents, à quelques variations partisanes près.
Dire bah voilà, les enfants comprennent moins bien les choses ou de manière plus superficielle, donc ils vont être instrumentalisés soit par leurs parents qui vont les forcer à voter pour telle personne ou tel parti, soit par les politiciens eux-mêmes qui vont leur faire des propositions qui sont en fait irréaliste. Bon, moi, je pense que les adultes sont aussi tout à fait instrumentalisés par les personnalités politiques.
Saisir les enfants comme sujet, placer les enfants au centre de l'histoire, c'est peut-être aussi appréhender cette catégorie comme façonnée par des combats menés par les enfants eux-mêmes. Des mutineries dans les bagnes pour enfants, au grand mouvement lycéen, en passant par d'autres mobilisations moins documentées, à l'instar des mineurs en lutte, collectif né dans le sillage de mai 68. Patrice a grandi dans une famille de cheminots, de gauche et assez permissive, selon ses dires. À 70 ans, il est resté fidèle au combat pour l'émancipation collective et à son quartier, le nord-est parisien, qu'il n'a pas quitté depuis son enfance révoltée et où l'on s'est rencontré un soir d'hiver.
Bon, ben, mai 68, moi j'étais lycéen à cette époque-là, dans un lycée du nord-est parisien, à la lisière du 18e Stalingrad. Et dès 67, il y avait déjà une effervescence qui était due, par exemple, à la mort de Che Guevara. Moi, je me rappelle, dans mon lycée, ça avait beaucoup marqué les lycéens. Les premières grèves, les premiers mouvements étudiants, le mouvement paysan en 67, il y a eu un mouvement très violent où il y a eu carrément des morts, aussi bien côté policier que paysan. Voilà, donc il y avait déjà une base dans les lycées de gens qui s'intéressaient, avec des profs qui, une partie de profs qui savaient nous ouvrir culturellement, littérairement, politiquement et tout. Là-dessus, donc, est arrivé mai 68. Bon, on va pas raconter, voilà. Moi, dans mon lycée, on n'a pas repris vraiment les cours. On a fait une espèce d'autogestion pendant un an, donc septembre 68, septembre 69, où il y avait plus d'administration. C'était les profs et nous qui gérions les cours, l'organisation du lycée. Le lycée était devenu une base d'agitation où, bon, on apprenait avec les profs à qui on avait envie d'apprendre. Et finalement, le gouvernement, il a essayé de reprendre en main progressivement le contrôle, alors que ce soit dans les lycées ou ailleurs. Et ça s'est traduit par 2400 lycéens, rien que sur Paris, qui ont été exclus. Et puis d'autres, comme moi, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont obligés à redoubler. Donc, bon, j'ai perdu une année, bon, c'est pas très grave. Mais le reste, c'est un bonheur. C'est-à-dire que la lutte collective, tout ce qui a pu se passer, les rencontres avec des gens, et puis comment, au niveau du système, au niveau du système, on les a vraiment bousculés, quoi, il n'y a pas de problème. À cette époque-là, c'était n'importe quel lycée, collège, quartier et tout. Il se passait des trucs. Il y a, par exemple, à Barbès, des jeunes, à l'époque, les cafetiers avaient le droit d'avoir un fusil de chasse sur leur comptoir. Et le nombre de jeunes, particulièrement de l'immigration, qui étaient mal vus par un cafetier raciste, ils sortaient le fusil, ils le tuaient. Il y a eu en 1969 l'affaire de Jelali Ben Ali, un jeune de 15 ans qui a été abattu comme ça à Barbès. Donc il y avait une espèce de violence du système permanente et une violence quotidienne de riposte. Ça, c'est très important aussi bien chez des très jeunes que dans des usines, dans les facs et tout. Voilà. Ce qui fait que quand la lutte des mineurs en 78, vu l'ébullition qu'il y avait autour, ça a donné des idées.
Alors Marie Cabrette, est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu l'adolescente ou l'enfant que vous étiez dans les années 70?
Alors peut-être commencer par l'enfance, parce qu'elle explique, l'enfance explique l'adolescence et le parcours. Une enfance d'enfant battu. J'étais une petite fille qui n'avait pas été désirée par ses parents. On est dans les années 60, la contraception dans une famille rigoureusement catholique, ça n'existe pas. Donc je suis née un an après mon frère. Donc ensuite, ça a été une succession d'années extrêmement difficiles, d'années de coups au sens propre et au sens figuré, d'années de honte aussi, de culpabilité, comme toutes les petits enfants qui ne comprennent pas ce qui se passe et qui se disent que forcément ils ont fait quelque chose pour être à ce point détestés, pour être à ce point battus par leurs parents. Donc ça commence comme ça, et puis jusqu'à mon début d'adolescence. J'ai 15 ans et en fait, j'en peux plus de cette vie-là. Et donc, à 14 ans même, je fugue. Et je fugue beaucoup en disant stop, ça suffit. Les fugues, c'était des appels au secours. Je ne respire plus, j'étouffe. Si je continue comme ça, je ne vais tout simplement pas survivre. Donc, de fugue en fugue, récupéré par la police, évidemment, à chaque fois, puisque je me cachais dans les halls d'immeubles, donc... Donc bon, c'était facile de me retrouver, je finis en foyer. Donc la juge, quand elle me place en foyer, moi je me dis, ça y est, je vais enfin vivre une vie normale. Mais quelle déception, j'arrive dans les foyers qui à ce moment-là étaient en réalité sinistres. Je me souviens d'un premier foyer où les surveillants passaient tous les soirs pour fermer à clé tous les volets de toutes les chambres à clé. C'est un sens très précis. C'était un foyer qui était en face de la prison de Pontoise, et c'était un foyer en réalité qui était une garderie pour adolescents et qui ne s'occupait absolument pas des jeunes gens qui étaient là, tous en souffrance, tous en difficulté, tous en souffrance. Donc en fait, rien n'allait jusqu'au jour où je pars en colonie de vacances. Et là, je rencontre dans cette colonie de vacances des adultes qui me parlent d'émancipation, qui me disent que on est au contraire de jeunes adolescents, futurs adultes, et donc on est déjà dans les décisions de soi, qu'on participe à la construction de l'avancement de soi. Ça a été mais lumineux, mais complètement lumineux. Et quand je suis rentrée au foyer, là, j'ai vu qu'il y avait un décalage phénoménal avec les éducateurs du foyer et ce que je venais de vivre. Et c'est là où je décide de partir définitivement de tout foyer. C'est-à-dire, je ne veux plus de foyer et je veux vivre ma vie, tout simplement. Je veux pouvoir décider de ce que je veux faire dans la vie. Je veux continuer mes études, avoir accès à ce que je n'avais jamais eu accès, à la culture, aux livres. Toutes ces choses-là qui ont l'air banales, mais que quand on les a pas, elles ne le sont pas.
Cette colo à laquelle vous faites référence, c'est une colonie en Corse,
oui.
C'est bien ça, avec un collectif qui s'appelle 7+, de moniteurs plutôt, on va dire, libertaires.
À ce moment-là, ils s'appellent pas Collectif 7+. À ce moment-là, ils sont des moniteurs. Hein. Et quand je fugue du foyer en disant je peux pas rester là, je veux pas rester là, je les appelle. Et eux, à ce moment-là, m'ont hébergé en disant on peut pas laisser une jeune adolescente de 15 ans et demi, 16 ans dehors dans la nature. Donc ils m'hébergent, on en parle. Et c'est là qu'est né le mouvement des mineurs en lutte, le fameux mouvement des mineurs en lutte, moins de 18 ans.
Et en janvier 79, une cinquantaine d'entre eux ont décidé de fuguer collectivement. Donc qui de ses parents, qui de son foyer, et sur toute la France. C'est-à-dire qu'il y avait aussi bien des gens de Nice, de Paris, enfin de toute la France. Ils ont débarqué à Paris, et pour faire connaître le mouvement, ils ont décidé de occuper un bâtiment. Le plus simple, c'était la fac Paris 8, qui à l'époque était au bois de Vincennes. Alors moi, j'étais plus lycéen à l'époque, j'étais étudiant là-bas. Donc, d'où la rencontre, voilà. Et donc, ils ont débarqué une cinquantaine. Ils ont occupé le bâtiment de sociologie, qui était un des plus radicaux. Donc, on les a accueillis, on a organisé l'occupation de la salle, faire connaître l'occupation, le service d'ordre, parce que ça, c'était très important, que ça soit par rapport à la police et par rapport aux pédophiles. Parce que par exemple une nuit on en a surpris un qui s'était infiltré dans le dortoir et comme il y avait un service d'ordre on l'a éjecté, voilà, comme quoi les rats sont toujours voilà.
C'était une situation tendue, l'occupation de la faculté de Vincennes, puisqu'on savait que le moindre pied dehors, on était attrapé immédiatement par la police, puisque la police ne pouvait pas rentrer dans l'université. Et quand je me suis rendu compte, plutôt on m'a dit qu'elle était à chaque carrefour autour de l'université, je me suis rendu compte du poids qu'on avait pris. Parce qu'au fond, s'ils en avaient rien à faire ou s'ils ne craignaient pas grand-chose, pourquoi mettre un quart de police à nous attendre à l'extérieur ?
Alors de quoi ils avaient peur, vous pensez ?
Ils se disent, mais si ce mouvement s'étend et ils sont au courant qu'on a des jeunes gens en province qui nous ont entendus, qui disent « moi aussi je suis mineur en lutte » et ils n'arrivent pas à maîtriser ça. Non, mais ça va aller jusqu'où ? Ah.
Ce qui les étonnait, c'est la maturité. Parce qu'effectivement, pour eux, l'idéologie dominante, un enfant, c'est t'obéir à tes parents, t'obéir à ton prof, t'obéir à ton curé si t'es religieux, etc., etc. C'était la maturité, le fait que, quel que soit leur jeune âge, ils pouvaient être interviewés, dire des choses intelligentes, bien les exprimer, clair dans leur tête et tout, mener quand même une lutte qui a duré un an, où ils ont créé leur journal, où ils ont sorti des tracts, où ils ont impulsé un colloque sur le droit des enfants, où ils ont réussi à impliquer, à entraîner des juges pour enfants, tout un tas de gens, même de l'institution, qui se sont dit, oui, il faudrait quand même s'attaquer au problème, parce qu'il n'y a pas de raison. Il y a eu mai 68, il y a eu plein de choses qui ont évolué, mais par exemple, les mômes, c'est toujours « ferme ta gueule et étudie » ou je sais pas quoi. Et donc, en dehors des 50 mineurs qui ont occupé le bâtiment, il y a eu des tas de mômes de tous ces âges-là qui se sont mis aussi à militer pour le droit des enfants, puis après par extension se sont mis à s'intéresser à ce qu'ils ont découvert en rencontrant les majeurs, en rencontrant la presse, en rencontrant tout ce qu'ils ont croisé dans cette lutte quoi.
Alors qu'est-ce que vous réclamiez justement ?
Alors on a réclamé dans ce qu'on a mis autour du terme d'émancipation, c'était de dire ce qu'on appelait le droit à la parole en fait. Le droit à la parole dans les familles, hein, le droit de décider de son avenir, de ses études. Et puis on a élargi ça aussi à l'école, c'était déjà dans cette idée de démocratie participative. Et puis il y avait aussi, ce qui était très important, l'aspect judiciaire, dire un mineur ne doit pas se retrouver seul face à un juge. C'est pas normal d'être seul, d'autant qu'on ne connaît pas le droit. Au moment où on se retrouve dans le bureau, on ne sait pas, donc droit à un avocat.
Et vous réclamiez aussi l'abolition de ce statut de minorité ?
Ça, je pense pas obligatoirement. Moi, c'était plus la revendication de droit, le droit de parole, le droit d'être écouté. Par exemple, un mineur ne pouvait pas être directeur ou directrice d'un magazine ou d'une revue. Bon, lorsqu'à la fin de 79, avec 7 mineurs et moi qui étais majeur, on a créé un fanzine punk, on a nommé une des mineures directrice de publication, ce qui était complètement en violation de la loi, mais on l'a fait quand même. Et puis, finalement, la loi, elle a rien fait. Mais le statut, qu'il y ait une égalité adulte mineur, femme homme, etc., etc. C'est oui, effectivement, d'abolir un statut qui fait qu'il y a des gens qui dominent et des gens qui sont dominés.
Et est-ce que vous, donc en tant que jeune majeur, d'ici à 25 ans, vous aviez?
Ouais.
Est-ce que vous avez appris de cette lutte avec des mineurs?
Bah, apprendre, oui, parce qu'on apprend toujours des autres et tout. Que ça soit sur des situations aberrantes et des choses qui ont l'air de détails comme ça. Mais par exemple, la petite Denise, ses parents, ils mettaient un cadenas sur le téléphone pour qu'elle puisse pas téléphoner sans qu'ils le sachent, quoi. Et puis surtout, c'est que ça donnait quand même des résultats. C'est vrai, ça a quand même donné tout un tas de... Bah déjà, d'une prise conscience globale que les mineurs, ils existent, et ils ont des idées sur comment mener leur vie, comment on les considère et tout. Et puis ça aboutit à des... Bah, la charte des droits de l'enfant de l'ONU, bon, on en pense ce qu'on veut, mais c'est toujours un plus. Bon, après, faut jamais s'arrêter en cours de route, faut toujours plus, quoi.
1980, les nuits magnétiques sur France Culture.
Alors les mineurs en lutte tiennent une permanence tous les mercredis après-midi à Paris, au 94 boulevard Masséna.
Laura Adler rencontre des mineurs en lutte.
Ils éditent un journal qui s'intitule Le Péril Jeune, ils éditent des brochures dont une qui s'intitule T'as de l'audace gamin, et c'est collectivement qu'ils entendent militer.
De toute façon, pour les mineurs, c'est pareil. Le fait de revendiquer une fugue, de se regrouper, si on s'organise et si on le revendique, ça peut devenir quelque chose de très très intéressant. Parce que c'est une manière de contester qui fait très très peur. Parce que quand les enfants commencent à parler et à bouger, les adultes commencent à se poser des questions. Une fugue, ça fait très très peur aux parents. Ils perdent leur propriété, ils perdent leur objet. Ça leur fait très peur, dans la majorité des cas. Bon, à mon avis, c'est la meilleure arme. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, hein, à un niveau individuel. Mais à un niveau, je sais pas, où il trouve des compromis avec ses parents, c'est toujours possible, enfin, dans la majorité des cas. Mais un compromis, c'est toujours le mineur qui se fait avoir à la fin, enfin, la plupart du temps.
Une question comme ça que je me pose, que les d'autres gens doivent se poser, comment vous vivez?
Alors, il y a des mineurs qui vivent chez leurs parents, il y a des mineurs qui vivent chez des copains, il y a des mineurs qui sont complètement dans la zone, qui sont hébergés à droite, à gauche, parce que justement, ils n'ont pas la possibilité de louer un appart, parce que d'abord, c'est interdit sans l'autorisation des parents, d'abord parce qu'il n'y a pas de fric, et d'abord qu'on ne peut pas bosser. Ou alors, quand on bosse, c'est au noir, on se fait chier, on gagne presque rien, on se fait complètement avoir, quoi.
Et toi, t'as fugué ?
Définitivement.
Et depuis combien de temps ?
Un an.
Et tes parents, tu les as jamais revus?
Si, je les revois, mais je les ai revus très longtemps après. Le temps qu'ils acceptent justement cette fugue définitive. Et maintenant, ils me foutent la paix. Mais il y en a d'autres pour qui c'est pas le même cas. Il y en a d'autres qui peuvent plus rentrer chez eux. Enfin, il y a tout un chantage à ce niveau-là. Si tu t'en vas, tu remets jamais plus les pieds ici. Bon, le rapport affectif, faut pas le nier non plus. Moi, j'aime bien mes parents, j'aime bien mes petites sœurs. Hein. Donc moi, j'ai pas du tout envie de couper tous les ponts avec mes parents. Pour moi, ça veut rien dire.
Bah moi j'ai fugué, je me suis fait récupérer parce que ma mère a envoyé les flics, enfin bon, je me suis fait complètement récupérer. Je suis rentrée chez moi, bon, comme lui dit, j'ai réussi à avoir un certain nombre de compromis si tu veux. Je peux sortir quand je veux, je fais ce que je veux si tu veux. Bon, mais de petit à petit, si tu veux, ça recommence. Ce matin, c'était fume pas trop. Il y a 2 ans, à 15 ans, il y a 2 choses que je veux pas que tu fasses, c'est que tu drogues et que tu fasses l'amour, etc., etc., et ça recommence si tu veux.
Par rapport à la loi, il faut pas oublier encore quelque chose, c'est que les mineurs n'ont pas le droit de faire l'amour. La loi, c'est beaucoup mieux que les mineurs s'ils ont le droit ou pas. On a le droit à la contraception, les filles ont le droit de prendre la pilule, les garçons les préservatifs, mais on n'a pas le droit de faire l'amour.
Dans le bahut où j'étais, à Marcelin Berthelot, je cite, il y a eu, je crois, 10 renvois pour homosexualité. Enfin bon, c'est dingue, absolument fou.
Ça, c'est le fameux journal, Le Péril Jeune. Voilà. Et donc là, ça, c'est le numéro, bah, je pense, le 1. Parce que là, je vois qu'il y a le numéro. Ouais, et ça, le numéro 2.
Là, on voit l'articulation avec les luttes féministes parce qu'il est écrit mineur avec un E, demi-portion, petite fille passive, soumise, silencieuse, petite fille de tes parents, de tes profs, de ton mec, de exploiter, dominer. Là, il y a un petit article de Marie-Caroline.
Ouais. Oui, bête. Assez chaud, donc je pense cela. Attends un peu.
Alors, de quoi il est question, par exemple? Les mineurs et les malades mentaux.
Oui, parce que... Alors là, je peux donner un aisant vécu. Dans mon lycée, il y a eu à un moment donné une jeune fille, une lycéenne, qui était vraiment une militante très acharnée et très radicale. Et bien un jour, elle a disparu. C'est-à-dire qu'on arrive au collège et tout, et puis elle n'était plus là, pourquoi, et tout, et tout. Alors, immédiatement, on a enquêté. Et on a découvert que l'administration, avec l'accord des parents, l'avait fait interner, en mettant sur le compte de sa révolte qu'elle était dérangée. Alors là, ça a été le choc dans le lycée. Alors, immédiatement, à un truc aussi scandaleux, on a répondu à une contre-attaque hyper scandaleuse. On a demandé à l'administration d'abord des explications. Et comme ils ne voulaient pas en donner, on a dit « Ah bon, c'est comme ça ?» Alors on a lancé une campagne en disant « Qu'est-ce qui s'est passé dans le bureau du proviseur quand il a reçu la camarade toute seule ?» Et alors, ça a bien marché parce qu'au bout de même pas une semaine, elle est revenue au lycée. Parce qu'on savait, on bombait dans les couloirs avec son prénom. Qu'est-il arrivé dans le bureau de... le nom du proviseur, je ne me rappelle plus, etc.
D'ailleurs, Marie-Caroline, là, parle d'être menacée d'hôpital psychiatrique, par exemple.
Ah bah, c'était une des réactions... Alors, naturel entre guillemets des parents, c'est du genre mais ils ont tout, on les comprend pas, on fait tout pour eux, elle est folle, il est fou, et il y a eu plein de cas comme ça durant l'été 68 où des gens très jeunes qui avaient vraiment eu un investissement, que ça soit au niveau du lycée, etc., hop, les parents les ont fait interner. C'était vraiment une menace qui était pas que dans l'air, quoi.
Mais vous me parliez de ce qui était en jeu aussi dans cette lutte, c'est-à-dire de s'en prendre aux parents, et, enfin à la famille, au statut des parents, et ce qui évidemment se heurtait à un certain nombre de résistances.
Effectivement, là-dessus, on voit que le système, lui, l'a bien compris, puisque en maintenant, eux, leur idéologie, comme quoi la parole des enfants, soit elle doit pas exister, soit s'ils osent parler, de toute façon, on n'en tient pas compte, et bah, du coup, dès que ce mouvement a éclaté, il y a tout un ensemble de médias qui ont été voir les parents, et non pas les mineurs, pour leur demander, pourquoi vous faites ça? Et ce qui est logique, puisque effectivement, l'action des mineurs, pose d'abord la question, leurs propres problèmes, ce qu'ils ont exprimé, mais met en cause la famille, les parents, qui sont les représentants d'un système idéologique. C'est eux le premier affrontement qu'ils rencontrent, c'est celui des parents. Après, bien sûr, de l'école. Après, bien sûr, venait à l'époque celui du service militaire. Et puis après, au travail, le patron, etc. Voilà, il y a un texte de Marie-Caroline, 16 ans.
La répression te collait à la peau comme une sangsue. Il a fallu me faire taire, il m'a fait exploser. Il a voulu étouffer ma révolte, elle n'a fait qu'augmenter. Il a voulu que je me suicide, je me suis ratée. Laurent Houtan, capitaliste, a plus d'un tour dans son sac répression.
Là, justement, le mot suicide dans le texte de Marie-Caroline, c'est aussi autre chose dont j'ai pas parlé. C'est que la pression sur les enfants, les mineurs par leur famille a occasionné aussi beaucoup de suicides, de tentatives de suicide. Quand on regarde les chiffres, c'est des dizaines de milliers par an. Le rôle de la famille, c'est une des grosses causes. La pression au sein de la famille qui interdit tout, les sorties, de lire tel truc, de faire telle chose, ça amène à un moment donné, la révolte. Quand la révolte, elle est isolée, les moyens de l'exprimer sont plus limités. C'est un cri, c'est un appel, c'est une forme de révolte aussi. Parce que la pression de la famille, d'un point de vue idéologique, c'est aussi de culpabiliser l'enfant. C'est-à-dire, combien de fois des enfants ont pu entendre des phrases du genre « tu nous gâches la vie, tu nous pourris la vie ». L'affrontement aussi par rapport à ce que les parents voudraient que leurs enfants soient.
Alors par rapport à tous ces droits que vous réclamiez, droit à l'information sexuelle, droit de gérer son budget, droit de disposer librement de son corps, droit à la parole en toutes circonstances, qu'est-ce qu'il vous semble que vous avez obtenu grâce à cette lutte?
J'ai envie de dire une réponse globale.
Marie Cabrette, alias jadis Marie-Caroline Saison.
Ce qu'on a obtenu, c'est un coup de projecteur sur la situation des mineurs, sur la situation juridique du mineur, sur le quotidien des mineurs, sur des vies comme la mienne qui étaient ruinées pendant des années, des vies d'autres qui étaient dans l'incompréhension, dans cette idée que comment on fait pour avancer. J'ai souvenir d'avoir eu des discussions très fortes avec un juge, Jean-Pierre Rosenzweig, qu'on a connu ensuite, qui s'est beaucoup impliqué sur ces sujets-là. on a été à l'origine de ça. Et on a permis aussi à ce que chacun s'implique en disant, mais si ce sont des jeunes gens qui nous le disent, il va falloir qu'on apprenne à écouter.
Mais donc, je sais pas, un jeune, c'est quoi ? Voilà, c'est ça aussi que posaient les mineurs à un moment donné. Mais c'est quoi un jeune ? C'est quoi un enfant ? C'est quoi un adulte ? Il y a des adultes qui ont moins de maturité qu'un enfant. Quand on lit justement les tracts pondus par le mouvement des enfants, là, il y a des textes qui ont une maturité que combien d'adultes aujourd'hui ne l'ont pas du tout. Donc le système, de toute façon, il aime bien diviser pour régner. Et s'il peut opposer les sexes entre eux, les âges entre eux, les races entre eux, les, enfin tout.
Classe de CE1, école Tourtille, Paris 20e.
C'est toi.
Si vous deviez dire en un mot, qu'est-ce qui est différent entre nous cinq, les cinq adultes et vous ?
Vous êtes plus grand que nous. Donc vous écoutez.
Comme ça, on pourra apprendre.
C'est notre présence dans la classe qui provoque cette discussion.
Qu'est-ce que les adultes font que les enfants ne peuvent pas encore faire ?
Travailler. Les adultes, ils peuvent rentrer chez eux. Ils n'ont pas besoin de leurs parents.
Mais vous, vous pensez que vous avez besoin des adultes, pourquoi ?
Parce que il y a des gens qui peuvent nous voler.
Ah, pour vous protéger ?
Parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire et que les adultes savent faire.
Et tu dis, Mia, toi, c'est être dépendant de tes parents ?
Oui, mais il y en a souvent qui peuvent dire, rester un enfant dans ta tête, par exemple, quand t'es adulte, parce que t'es pas sérieux, tu travailles pas bien, t'es...
dans ta tête, en fait.
Oui, c'est ça.
C'est négatif.
Non, ça des peut fois, être c'est positif.
Pas... Par exemple, tu penses qu'à ça, t'es toujours qu'un sale enfant, ça, on sait que c'est négatif, mais... t'es un enfant avec une voix adoucie, c'est plutôt comme un compliment, parce que moi je le prends comme un compliment vu que c'est bien d'être enfant en fait.
Tu t'en fiches un petit peu de ce que les autres pensent, enfin surtout quand t'es pas encore un adolescent. Par exemple, moi j'ai une amie qui a 3 ans, je la considère un peu comme ma petite sœur. Vraiment, ça la dérange pas, elle est dans la rue, elle a envie de s'amuser, elle a chaud, elle enlève son t-shirt, elle s'en fout en fait. Donc c'est aussi un peu ça être enfant, c'est que tu t'en fous un petit peu de ce que les autres pensent.
Merci à la classe de CE1 de Caroline Séchant de l'école Tourtille, à Mia, Naya, Guilain Leroy, Véronique Blanchard, Daniel Delanoé, Laurence Francoz-Terminal, Lélia Benoît, Patrice et Marie Cabrette, ainsi qu'à Houyem Rebaille et Eva. Prise de son, Fabien Gosset, Lucien Lefebvre et Pierrick Charles. Mixage, Bruno Mourlan. Documentation Radio France, Annelise Signoret. Archivina, Sophie Enoch. Stagiaire, Agathe Veil. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau. Les enfants peuvent-ils parler ? Infants, celui qui n'a pas de voix. Un documentaire de Clément Salzar, réalisé par Anne Fleury. Vous pouvez le réécouter sur franceculture.fr et retrouver le podcast sur l'appli Radio France.